amis de Rouen, d'Evreux, bien sûr, bienvenue dans le Blabla Mix. Nous sommes le jeudi 12 décembre et je suis à la commande de votre émission, de votre espace d'expression culturelle et sociale. Avec moi ce soir, il y a nos chers stagiaires. Donc, il y a Mickaël qui est là. Bonsoir, Mickaël.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va et toi?
La semaine, ça s'est bien passé, ça se passe bien?
Ouais.
Bien au calme. Donc nous sommes avec Justin, comment ça va Justin?
Ouais, ça va, ça va.
Bien au calme. Et il y a Mohamed qui est en place, comment ça va Mohamed?
Ça va et toi?
Bien.
Alhamdoulilah.
La forme. Et bien voilà, pour vos sorties culturelles, vous avez compris, donc ces messieurs sont là pour vous, de temps en temps aussi, aérer cette émission de quelques chroniques. Ce soir, on va découvrir quelques surprises, je ne vais pas vous en dire plus, donc Justin, il garde ça au chaud pour tout à l'heure. Vers 17h15, donc voilà la chronique de Doc Mansour, donc l'instant d'histoire comme tous les jeudis, vous le savez déjà, vous avez l'habitude. Et aujourd'hui, pas d'invité bien sûr, donc c'est mais ne vous inquiétez pas, votre émission est bien chargée. Les membres de l'association ASTI d'Optique et Vie donc sont venus ici pour nous parler un peu de l'ASTI et aussi de cet événement qui va se dérouler samedi 14 décembre. Et donc voilà, nous avons reçu ici dans ce radio par le biais de monsieur Antoine Correa et de Johan, donc un ex-syndicaliste de Petroplus. Donc voilà, qui est venu nous parler un peu des règles de sécurité dans des entreprises. Donc voilà, après Lubrizol, donc il fait le lien de Petroplus à Lubrizol. Donc j'ai nommé monsieur Yvan. Donc voilà, toute l'équipe est prête. Mais je ne vais pas garder qu'à continuer mon speech. Et puis on va partir en musique avec monsieur Charles Bradley. Donc voilà, qui était venu à Rouen, si je ne me trompe pas, au mois de juin 2016. Voilà, Charles Bradley sur les ondes de la radio HTR et Principatif. C'est parti.
Make it.
Et ben voilà, monsieur Charles Bradley. Donc voilà, pour ceux qui ont eu l'occasion de le voir sur scène le 22 juin 2016. Donc voilà, c'était dans le cadre du festival Archéo-Jazz ici à Rouen. Et là, tout de suite, nos stagiaires, ils sont chauds, ils sont en place. Donc voilà, ils vont nous faire quelques petites chroniques. Comme d'habitude, monsieur Mike, il est chaud et il va nous parler de grève.
Encore.
Et puis, on est, c'est d'actualité.
Ouais.
Et voilà.
Du coup, en fait, moi, je vais parler encore de la grève. Mmh.
Encore et encore.
Eh bien.
Toujours.
Oui, alors qu'est-ce qu'on va découvrir alors?
Qu'il y a encore des tensions de la grève à Rouen et au Havre.
Est-ce que hier, tu as suivi l'intervention du Premier ministre hier?
J'ai pas suivi.
Donc.
J'ai pas du tout suivi l'intervention du Premier ministre.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu veux nous parler de quoi sur cette grève?
Encore des blocages.
D'accord.
Encore beaucoup de blocages, même plus que.
Qui se passe où?
Qui se passe à Rouen, au Havre. Il y a des blocages au rond-point du Smédard à Grand-Quevilly.
Mmh.
Sur la rive droite, au niveau du port autonome de Rouen.
Mmh.
Dans la zone industrielle du Havre. Et tous les bacs de Seine-Maritime. Je sais pas si tu vois c'est quoi les bacs.
Oui, c'est bateaux qui transportent.
Voilà, les bateaux pour. Voilà.
Oui, on parle pas des bacs, surtout pas les policiers. Donc ouais. C'est bateaux qui transportent.
C'est pour ça que. Voilà.
Les voitures qui nous permettent de passer d'un quai à l'autre.
Voilà, c'est ça. Ils sont bloqués à Duclair, à Mélisse ou Jumièges, à La Bouille et à Quibœuf. Sur scène.
D'accord, ok. Pour les auditeurs, donc voilà, qui habitent par là-bas, qui utilisent ces bacs, donc voilà, faut savoir qu'ils sont bloqués. Donc voilà, merci pour ce Mike, pour ces informations pour nos auditeurs. Et Mohamed, alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce que t'as préparé pour nos auditeurs?
Moi, en fait, ça parlait de trois pêcheurs qui ont trouvé un chien en train de se noyer.
Uh-huh. Rapproche-toi du micro, Mohamed.
Le matin, quand ils étaient en train de pêcher, en fait, ils ont trouvé un chien en train de se noyer, c'était une femelle.
Oui.
Le mardi 10 décembre 2019.
Et ils l'ont trouvé.
Mmh.
Alors, c'est quoi l'histoire du chien?
Et c'est, comment ça s'appelle vous voyez où c'est les sas d'équinés? Les sas kinés?
Non.
En fait, c'est un port au Havre.
Mmh.
Et ils l'ont trouvé là en train de,
se noyer.
Ouais, en train de se noyer. Et à l'aide de leurs bras, et de toute leur force, ils ont essayé de retirer avec une corde.
Oui.
Et quand ils l'ont retiré, le chien, il était apeuré et mal au point. Il était quand ils l'ont un peu essuyé, ils l'ont un peu remonté le moral.
Oh, effectivement.
Ouais,
il avait besoin.
Ouais. Il avait besoin. Après, une fois sur le pont du bateau, les trois pêcheurs.
Uh-huh.
Réchauffé comme ils l'ont pu l'animal, mais elle était maigre et très peureuse. Mmh. Au début, ils ont peur qu'elle meure, quoi.
D'accord, ok. Et le chien, finalement, ils ont réussi à le sauver?
Oui, oui.
Est-ce qu'ils ont trouvé son maître?
Non.
Non, pas encore, ok. Bah, alors, si son maître, c'est... Oui, Mike?
Je tenais à dire aussi que si les personnes qui veulent adopter des chiens, les adopter pour les abandonner 2 mois après, ça sert à rien du tout. Si vous voulez adopter un chien, réfléchissez-y avant.
C'est quand même une vie dont on doit être responsable.
Ouais.
Voilà.
On a gardé le meilleur pour la fin parce qu'on va vous parler de concerts, de groupes féministes. Ah oui, mais attends, je donne un peu envie aux gens. Donc voilà, c'est à la mode le féminisme. J'ai dit c'est à la mode, je les taquine un peu nos chers féministes. Voilà, c'est d'actualité et puis heureusement qu'on en parle de ces sujets. Et ben voilà un sujet qui va intéresser nos féministes.
Moi le premier.
Alors justement.
Bon là aujourd'hui on se retrouve avec du lourd. Ce soir.
Ah, ouais.
Donc là, on va se retrouver avec du lourd.
Ouais.
Je parle bien de la nièce de Oussama Ben Laden qui va faire son show
Il faut articuler bien. J'ai des oreilles bouchées un peu. Non, j'ai dit quand même. Donc tu disais que c'est la nièce.
La nièce d'Oussama Ben Laden qui va faire son show le 16 décembre à Paris.
Oussama Ben Laden, sa nièce, elle est vivante. Elle est ici à Paris, qui fait un spectacle.
Ouais. Bah oui, c'est bien la.
C'est quoi comme musique?
Une musique punk avec son groupe qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Jean. Désolé pour la prononciation, qui s'appelle Jean Pan, il me semble. Et c'est un groupe punk.
D'accord, ok. Tu sais à peu près à quel âge?
Elle a 44 ans.
D'accord, ok. C'est une grande nièce, du coup.
Ouais, c'est une grande nièce, du coup, mais qui a affirmé qu'elle a vu Oussama Ben Laden qu'une fois dans sa vie.
D'accord.
Du coup, elle a pas vraiment de lien avec lui. Du coup, bah, faut pas s'inquiéter pour ça. Et elle est souvent agacée sur ses origines. Mm-hmm. Donc, du coup, qu'ils lui disent oui, t'es la nièce d'Oussama Ben Laden, t'as peut-être des contacts avec lui.
Elle veut parler de musique, de chant, de spectacle,
ouais, du coup, elle affirme qu'elle n'a aucun rapport avec lui. Du coup, c'est souvent agaçant pour elle.
Super. Donc le spectacle, ça se déroule à Paris, donc
ouais.
C'est de quel jour, on sait au moins.
Oui, ça se passe le 16 décembre à Paris.
À Paris.
Ouais.
Et donc voilà, pour des curieux ou des fans, qui sait, donc voilà, et bien, si vous voulez la rencontrer et puis aller assister à son spectacle qui se passe à Paris. Et puis voilà, c'est une curiosité.
Je voulais juste rajouter un truc. Je voulais juste rajouter un truc, que ça fait... qu'elle a tissé les liens avec la famille paternelle de sa famille paternelle avec Oussama Ben Laden. Ça fait 15 ans qu'elle a plus de lien avec sa famille paternelle.
Ouais. D'accord, ok. J'imagine que ça doit être compliqué de faire de la musique quand tu viens d'une famille comme cela. Mohamed, tu voulais dire quelque chose?
Et aussi, si vous voulez assister au concert d'Oxmo Puccino,
ouais.
Appelez la radio au numéro HDR au numéro 0235.
Ouais.
02 35 32 97 46, je répète. 02 35 32 97 46.
Et effectivement, donc voilà, on a des places à vous faire gagner pour le concert de Monsieur Ox qui vient ici à Rouen. Et puis on a l'habitude de voir les grosses têtes de la scène française. Nous avons eu Kerry James l'année dernière. Et puis voilà, j'imagine qu'il y a plein d'autres artistes qu'on ne peut pas tous les nommer. Voilà, on a des places à vous offrir. Et puis pas seulement pour ça, il y a aussi pour l'EPE, le groupe de. Cette actrice là qui joue, moi je vais pas. Donc le groupe L'Épée. Donc voilà, et le groupe L'Épée. On a aussi des places pour le cirque aussi. Et puis n'hésitez pas à aller sur le page Facebook de la radio et puis de laisser seulement un commentaire en disant que je vous assister en spectacle du cirque ou aller assister au concert de L'Épée ou sinon le concert de Oxmo Puccino. Et puis voilà, et nous on vous file les places, soit tout seul, soit en compagnie, quoi. Voilà, faut le préciser. Et puis voilà, nous allons partir en musique et puis nous allons revenir avec vos petits chroniques comme vous avez l'habitude. Et c'est parti. Donc je vous propose Wax Tyler sur les ondes de la radio HTR et le principe actif.
Faisait passer des examens qui n'existaient pas. Il y avait quand même des examens, des gens plus hauts qui étaient réellement honnêtes et qui ont vu ce qui s'est passé.
Outside the sky is black in the middle of July and stable nature. I'll be
and the curtains are falling low.
Et voilà, c'était Wax Tyler sur les ondes de la radio HTR, le principe actif, il est 17h18 et puis voilà. Et votre chronique d'Instant d'Histoire avec Doc Mansour, et qu'aujourd'hui, il va nous parler de quoi ? Il va nous parler de la liberté violente et la liberté non violente et mort violente. Chronique de Dr Mansour, c'est une rediffusion donc voilà, qui a été fait donc le 19 mars 2015.
Et nous retrouvons tout de suite notre docteur Mansour pour l'instant d'histoire avec un premier volet qui sera donc le premier volet d'une série qui sera consacrée à liberté violente, liberté non violente, mort violente. Ah, donc d'ici quelques secondes, on va en savoir plus, docteur
Mansour. Voilà, donc déjà je remets dans le cadre. La guerre de sécession qui se déroule aux États-Unis, une jeune nation pour l'époque, entre 1861 et 1865, les États du Nord et les sudistes se retrouvent confrontés, appelleront eux-mêmes The Civil War, la guerre civile, avec Abraham Lincoln qui sera élu en 1863. Cette guerre, en fait, va officiellement mettre fin à l'esclavage. Mais loin d'être d'effacer les préjugés raciaux et la ségrégation naissante. Les États du Sud, qui sont en réalité des grands propriétaires terriens et qui ont une main d'œuvre, voire pas chère, voire gratuite, qui sont les esclaves, donc des Noirs, je rappelle que les Noirs sont des immigrés qui n'ont rien demandé à personne. Et à la suite de cette guerre, l'abolition est réellement votée. L'esclavage n'existe plus. Et dans les articles de la Constitution américaine, les droits civiques, normalement, sont égaux tant pour les Noirs que pour les Blancs. Mais voilà, juste après cette guerre, un certain général Lee crée le Ku Klux Klan, qui malheureusement fera beaucoup parler de lui. Et dans les États du Sud, on promulguera même des centaines de lois qu'on appellera Jim Crow. Alors Jim Crow, c'est juste l'anecdote, c'est parce que c'est un personnage d'une parole de chanson chantée par des Blancs grimés en noir. Ces lois ont le but de séparer les Noirs des Blancs dans les milieux professionnels. Donc les Blancs ne travaillent pas avec des Noirs. Au niveau du salaire, pour la même profession à diplôme à peu près équivalent, le Noir gagnera beaucoup moins. Il y a des emplois réservés aux Blancs. Et les entrées des administrations réservées aux Noirs. Donc on rentre par derrière, on ne rentre pas devant le public. Des toilettes réservées aux Noirs et même des lavabos. Et on ira même jusque dans les bus. Et même dans ces lois, les peines pénales et même fiscales ne sont pas les mêmes pour les Blancs que pour les Noirs. Et on dira même que pour certaines administrations, il y avait même des horaires fantaisistes pour les Noirs. Je vous reçois de 9h à 9h30 ou à 18h. Mais à 18h, les bureaux sont fermés. Donc, ce qui fait que beaucoup de Noirs ne pouvaient pas s'inscrire sur les listes électorales, vu qu'on, pour ces horaires non seulement fantaisistes et aussi pour, on leur faisait passer des examens qui n'existaient pas. Mais parallèlement, une classe moyenne supérieure issue des Noirs émerge, qui sera le cas par exemple de Booker T. Washington, le premier vrai écrivain et penseur noir, et aussi de la famille d'un certain Martin Luther King, qui est en fait issu d'un milieu plus ou moins bourgeois. Mais la misère touche la majorité de cette population, tant au nord qu'au sud. Alors que la conscience noire se développe, en fait on va voir émerger des organisations, qu'on verra même dans les années 20, qui s'appellera la Nation of Islam, d'où sera issu un certain Malcolm. En 1955 se produit un incident dans un bus. Et je ne parle pas de celui qui s'est produit en septembre 1955, avec une certaine Rosa Parks, car en fait, il y en a eu un autre incident avant qui a mené à un procès. Et le véritable geste qui réussit à enfin contredire toutes ces lois, c'est une certaine Colette Cleveland qui a à peine 15 ans, qui, un après-midi du 2 mars 1955, monte dans le bus, revenant de l'école, et elle connaissait les règles parfaitement. Elle savait que les 10 premiers sièges étaient réservés aux Blancs, les 26 au fond étaient réservés aux Noirs, et ceux du milieu, les Noirs pouvaient s'y asseoir, mais s'il y avait plus, si les 10 premiers sièges étaient pris, que des Blancs rentraient dans le bus, le chauffeur qui est le contrôleur demandait de façon plus ou moins autoritaire aux Noirs d'aller au fond et de laisser leur place. Et bah cette brave Colette, qui a à peine 15 ans, bah refuse. Elle dit non. 6 mois avant Rosa Parks. Le chauffeur, s'arrêtant à un arrêt, appelle la police. Les policiers montent, demandent à ce qu'elle se déplace d'abord, bon, de façon autoritaire. Elle ne le fait pas. Et de là, elle est arrêtée. Les policiers la menottent, la jettent dans la voiture, l'emmènent à la mairie. Alors, sur tout le long du trajet, elle se fera injurier. On peut imaginer des noms, tout ce qu'on pourrait imaginer à l'époque. Hein. Et elle se retrouve seule dans une petite pièce, dans un lit de camp, sans matelas, avec des WC rouillés, et ne sachant comment prévenir sa mère. Et en fait, elle va rester comme ça plusieurs heures, jusqu'au moment où le pasteur du coin, avec sa mère, arrive à ce qu'elle soit libérée sous caution. Et en fait, elle était accusée par la ville d'avoir troublé l'ordre public, violé la loi de la ségrégation et agressé les policiers. C'est assez extraordinaire aussi, qu'il avait sorti du bus. Mais malgré ça, d'autres Blancs, mais personne qui s'était défendu contre ces accusations, qu'il y avait quand même des bonnes âmes et des gens plus eux qui étaient réellement honnêtes et qui ont vu ce qui s'est passé. Et on ne prendra pas, absolument pas compte de ce qui se passe. No, no, me, why? l'Association nationale pour le progrès des gens de couleur et la congrégation noire de la ville portent plainte. Aussi. Mais à l'audience, le président du tribunal rejeta les deux premiers chefs d'accusation, mais garda celui d'agression, qui est beaucoup plus grave. Parce que agression sur les forces publiques, même en France, ça peut vous coûter très cher. Donc elle fut mise en liberté surveillée, sous la garde de ses parents. Son avocat fit appel, mais en vain, systématiquement, les appels sont rejetés. Après le procès, elle retourna au lycée de Booker, Washington. Et en décembre 1955, soit plusieurs mois après l'arrestation de Claudette, se passe l'histoire de la petite couturière de 42 ans, Rosa Parks. Et fait assez curieux, c'est que les dirigeants noirs, notamment Martin Luther King, prirent leur distance vis-à-vis de Colette Colvin, du fait qu'elle était rebelle en fait, beaucoup moins maniable. Parce que cette brave petite, quand va se retrouver face à son véritable procès qui aura lieu en 1956, après la fameuse année de boycott des bus qui va faire quasiment couler les entreprises, hein. C'est un boycott qui a réussi. Et bien en fait, quand elle se représentera avec sa jolie robe bleue, quand le juge lui demandera d'avancer pour témoigner, elle lèvera le point, et le juge interloqué mais fait comme s'il n'avait pas vu et dit « Qui sont vos chefs ?» Il lui demande « Et seulement nous, nous seuls ?» a lui répondu, et d'un ton assez sec et franc. « Pourquoi avez-vous cessé de prendre le bus dès le 5 décembre ?» dans l'avocat, et en fait faisant référence à cette fameuse date du boycott, et elle leur répondit d'un ton assez, pour son âge, assez insolent, « Parce qu'on nous traitait mal de façon injuste et odieuse. » Imaginez le retentissement dans la salle, une gamine qui a 16 ans, et qui tient tête à des juges. On saura en fait ce qu'elle est devenue après. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que malgré tout ça, bon, elle sera quand même condamnée, mais à pas grand chose. La Cour suprême des États-Unis, suite à ce procès, confirma la décision que le juge avait prise, assez intelligemment, que la ségrégation dans les transports publics était abolie, mais que dans les transports publics, je précise. Et deux ans après son procès, elle a à peine 18 ans, et on la retrouve, elle quitte Montgomery, on la retrouve à New York, où elle travaillera pendant 50 ans comme aide-soignante dans une maison de retraite de Manhattan, et elle ne parlera jamais de son rôle historique, malgré tout, sauf quand elle allait dans les lycées ou avec ses collègues. Bon, elle a à peu près 70 ans maintenant, hein. Elle vit à peu près paisiblement, et elle va même déclarer « Quand il s'agit de justice, il n'y a pas de moyen facile de l'obtenir, on ne peut pas l'édulcorer, il faut prendre position et dire « Ce n'est pas juste, et je l'ai fait ». Donc cette brave Colette qui a été un peu oubliée, parce que c'est Rosa Parks qui a pris le devant, plus médiatisée, plus emblématique, une brave dame de 42 ans quasi affaiblie, et la petite Colette qui est beaucoup plus colérique, et en fait ça présage ce qui va arriver après cette fameuse année 1965, c'est-à-dire le mouvement des droits civiques, du côté on va dire des non-violents, que de ceux qui vont prôner une violence plus verbale et l'autodéfense et l'autodétermination, et on verra la suite la semaine prochaine.
Très bien, et donc en fait, voilà, même à 15 ans, elle était assez engagée, quoi, certains discours, et puis donc il n'y avait pas de règles par rapport au jugement et tout, le fait qu'elle soit mineure, quoi. Hein.
Non, elle était en plus mise dans une prison pour adultes. Ce qui était illégal aux États-Unis, la majorité est à 21 ans. Donc il faut se mettre dans le contexte que selon la couleur, vous n'étiez pas né dans la bonne branche, c'était un peu difficile. Et en même temps, je pense que comme elle a vécu dans le Sud, elle a vu les injustices que sa population subissait. Et elle a décidé de dire non.
C'est beau hein, quand même, hein. Surtout que c'est pas évident. Hein.
Voilà, c'était l'instant d'histoire avec Doc Mansour. Vous avez reconnu la voix de Sonia, bien sûr, voilà, qui a animé aussi cette antenne et cet espace de parole que nous avons eu l'honneur d'occuper, bien sûr. Et nous aurons toujours une pensée et nous espérons être à la hauteur de Sonia. Et puis voilà, juste pendant cette diffusion, on a eu du monde qui sont venus dans le studio. C'est aussi ça, HDR, et tout se passe en direct. On a les gens de la bibliothèque qui sont là. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On va enchaîner. C'est comme ça, et c'est le live. Et nous sommes avec Yedviga, donc, qui travaille à la bibliothèque du Châtelet, juste là à côté des voisins. Et puis, qu'est-ce que nous pouvons savoir? Qu'est-ce que nous voulons savoir? Nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe à la bibliothèque. Et puis, il y a les vacances de Noël, et puis il y a le week-end qui arrive. Alors, de quoi tu vas nous dire? De quoi tu vas nous parler, Yedviga?
Bonjour, je voulais vous présenter samedi notre programmation du samedi 14 décembre à la bibliothèque du Châtelet. Mm-hmm. Donc, les matins, si vous êtes disponible, vous pouvez venir écouter et regarder un conte africain, un conte africain qui sera dansé. Donc nos deux artistes, Colline Avril de la compagnie du Jean et notre collègue de la bibliothèque Simone de Beauvoir, Elvie vont venir. Il y en a une qui va lire l'histoire,
ouais.
Et l'autre Alors la danse, elle va enchanter tous les petits à partir de 4 ans et ça se passe à la bibliothèque du Châtelet, 14 décembre à 10h30. Donc on vous invite à cette animation. Après, vous pouvez prendre votre déjeuner ensuite.
Ma question, c'était ça. Est-ce que le café est offert à les croissants? Parce que c'est samedi
cette
matin quand même.
Oui, alors, malheureusement, cette fois-ci, non. Mais on va essayer d'être à la hauteur de la prochaine fois
même
pour les amis.
Période de Noël et tout ça?
En période de Noël...
Le Père Noël, il ne passe pas avant 25, c'est normal.
Voilà, peut-être plus tard. Mais c'est samedi, désolé, on va y penser la prochaine fois.
D'accord.
Et l'après-midi, là, je suis venue à la radio accompagnée de nos deux jeunes stagiaires.
Bonsoir, les bonsoir. Stagiaires.
Bonsoir. Bonsoir.
Comment allez-vous? C'est quoi? Présentez-vous pour les auditeurs qui vous découvrent, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites?
Je m'appelle Emma.
Rapprochez-vous du micro, oui.
Je m'appelle Emma.
Oui.
Et je m'appelle Sarah.
Sarah, Emma et Sarah, merci, on est enchantés. Je le dis ça à la place de nos auditeurs, nous sommes enchantés de vous découvrir sur nos ondes. Alors, vous faites quoi à la bibliothèque?
On fait notre stage de troisième de trois jours d'observation. Ouais.
Alors, vous avez observé quoi?
On a observé le métier de bibliothécaire.
Ça vous plaît?
Oui.
Vous avez envie de faire ça après?
Oui.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le métier de bibliothécaire?
C'est le fait de bouger et être entouré de livres.
Ah, donc la lecture?
Oui.
donc, Jadwiga, vous nous parlez de ce programme qui s'appelle Mort de lire, alors.
Oui, c'est une animation. C'est pour ça que je suis venue accompagnée d'Emma et Sarah, parce que toutes les deux participent à cette animation et apparemment, elles aiment bien.
Ah.
Donc, j'aimerais bien connaître qu'elles expriment leurs avis.
Est-ce qu'il y a des livres que vous avez découverts ici à la bibliothèque de Châtelet?
Oui, assez.
Que vous avez aimés?
Oui.
Ah, vous avez un coup de cœur alors?
Oui.
J'ai envie de savoir c'est lequel.
Emma
ou Sarah, comme vous voulez.
Moi.
Ok.
Alors, j'ai un coup de cœur, c'est un manga.
Ah, un manga? Ah oui, donc là.
Oui, qui s'appelle Maro Academia. C'est l'histoire d'un jeune homme au nom de Izuku Midoriya. Qui rêve d'être comme son idole, un super-héros, mais hélas...
Il vit dans une société où 80% de la population a des pouvoirs et 20% qui n'en a pas. Il en fait partie de ceux qui n'ont pas de pouvoir, mais il va tout faire pour pouvoir devenir héros malgré son défaut.
Super, ça donne envie, donc voilà. C'est génial. Donc ça vous apprend quoi de savoir que voilà, cette personne qui fait partie de ces 20% qui n'ont pas de pouvoir, mais voilà son idole donc qui est un super héros et qui se bat pour devenir comme son super héros. Et qu'est-ce que ça vous apprend? Qu'est-ce qui vous a plu en fait dans cette histoire?
C'est que c'est une histoire assez originale sur des super-héros et que cette personne qui n'a pas d'alter alors qu'il veut être comme son super-héros préféré, All Might.
D'accord, ok. Sarah?
Oui.
Alors, il y a un livre que toi aussi t'as un coup de cœur à nous communiquer? Sarah a du mal à décider quel livre elle va nous désigner. Alors, donc Emma nous a parlé de manga. J'ai vu Justin et Mike, vous arrêtez pas de secouer la tête. Vous connaissez ce livre? Vous l'avez lu?
Ouais.
Ah, c'est comment alors?
C'est un manga qui est extrêmement bien.
Bien écrit,
il est bien
dessiné.
Fait. Oui. Chaque personnage est défini par une personnalité. C'est choquant tellement c'est bien fait en fait.
Donc voilà, si c'est moi. Mais si vous voulez partager vos coups de cœur, je profite de ma présence ici. Je vois qu'il y a des jeunes qui ont envie de venir. Sarah peut-être pourra nous dire quelques mots au sujet de l'animation.
Oui, Sarah.
Sur l'animé de My Hero Academia, je dirais que l'animation est extrêmement bien faite. Les graphismes sont incroyables. C'est, comment dire, juste bien grand.
Donc voilà, vous avez vu. Donc, et votre stage, ça finit quand, mesdames, alors?
Aujourd'hui.
Ah, c'est cool. Donc c'est un au revoir, alors.
Oui.
C'est super. Mais vous avez perdu du temps. Vous auriez pu venir plus tôt et nous parler tous les après-midi de vos coups de cœur, de tout ce que vous avez découvert, enfin, la bibliothèque du Châtelet, mais aussi sur le quartier, sur le territoire, des choses que vous avez aimées, que vous... Pourquoi pas discuter avec les auditeurs des choses que par exemple, le livre parlait de lecture, parlait de manga pour jeux, pour enfants, pour adultes. Vous êtes les bienvenus, en tout cas.
Donc, moi aussi, j'ai un coup de cœur à partager. C'est une bande dessinée qui est sortie déjà il y a quelques mois. C'est Saison des roses de Chloé Wari. C'est une bande dessinée qui traite un sujet important à la mode un peu. C'est le foot féminin. Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme, Barbara, la capitaine d'équipe, qui, malgré la réussite de son équipe, n'arrive pas, elle et son équipe, participer au championnat. Parce que c'est toujours les hommes qui priment et on choisit toujours l'équipe masculine pour représenter les clubs. Oui. Tout se passe dans, dans une banlieue imaginaire. Et pourquoi j'aimais cette BD, je voulais vous la conseiller parce qu'elle est... Elle est vraiment vivante, elle est comme le quartier du Châtelet, elle a plein de couleurs pop avec un langage de Barbara bien viril. Donc si vous avez envie de connaître la fin de l'histoire, lisez-la.
Donc le titre, le livre...
C'est Saison des roses.
Saison des roses.
Donc. Comme l'équipe des roses, justement, l'équipe des roses.
Ah, c'est vrai, Saison des roses, l'équipe des roses.
Oui, voilà.
Bah, voilà, c'est bien. C'est bien, en tout cas, c'est bien construit. Qu'est-ce que nous pouvons savoir de plus sur la bibliothèque Jadwiga?
Donc on propose comme toujours les animations. Donc là, vous avez bien entendu noter l'animation du 14 décembre à 10h30. Et ensuite, à 15h, Mort de lire. Donc, si vous voulez rencontrer Sarah et Emma, échanger sur vos lectures avec Emma, Sarah et nos collègues, vous pouvez venir aussi l'après-midi. Je vous invite sincèrement à la bibliothèque du Châtelet. Ensuite, la semaine prochaine, le 18, comme d'habitude, vous pouvez découvrir notre animation « À petit péton vers les histoires ». Ah. Petit péton veut les histoires, c'est pour les tout petits. Donc là, Sarah et Emma sont plus là, mais pour les tout petits, si les mamans sont disponibles ou les papas, vous pouvez venir mercredi 18 à 10h30.
Super. En tout cas, merci d'être venu nous voir et nous partager tes coups de cœur et puis nous parler de la bibliothèque. Et nous, on est voisins, donc vous êtes juste à côté. Si vous avez de l'actualité, donc faites un petit pas. Même pas un texto. Le petit pas est plus rapide que le texto. Donc vous venez et puis voilà. Le studio, les portes sont ouvertes. Et puis on en parle. Voilà. Est-ce que vous aimez les concerts? Vous allez aux concerts? Vous assistez à des concerts? Jadwiga, avec des stagiaires?
Non.
Ah, moi j'ai des places à vous faire gagner pour aller assister au concert d'Oxmo Puccino.
Alors vous écoutez quand même un peu de musique.
Hein?
Oui.
Ah d'accord, ok. Bon, en tout cas, Oxmo Puccino, Amour et Zalogé sur les ondes de la radio HDRL, principe actif.
Les gens ne s'aiment plus, tu me feras pas croire ça. En vrai, les âmes sont noires si chaque fois ça foire. Car au fond, tous cherchent quelque chose. Les filles, les poches, c'est plus leste et de fric. Baiser avec le best, vend celle pour lesquelles tous les potes se frottent. Étrange comme les potes changent quand tu coupes du flou. Je bande sur ta fouf, tout en demandant comment tu vas. Je pense qu'avec le flou, tu changes que de soucis. Tous veulent le nier. Mais les amis, devant la monnaie, deviennent des animaux. La famille, un jeu de qui strike à chaque shoot. Suffit d'une bille de 5 lettres ou NVI. La jalousie suinte sur le front de ceux qui sont les moins loin de toi. Mais même censé avoir le cran de prendre soin de toi, tu vois. Un des frères moins aimé, cléné par sa mère. Dès l'enfance commence la sale guerre. Les frères grandissent, la plaie reste ouverte et pleine de haine. Les liens se pourrissent et se poursuivent jusqu'aux enfants. Depuis et aux la enfants nuit des temps, tant de chance donne la mort d'ici à Kingston. Une cause amoureuse jalousie. Ils veulent être qui je suis, peut-être ce que j'ai. Même mon insuccès m'excède. Amoureuse jalousie. J'arrive pas à vivre, pourtant mon cerveau à niveau. Ils veulent me priver de ma vie. Amoureuse jalousie. Noir et noir, moi ou toi? Pourquoi toi pas moi? Pourquoi moi pas toi? Voilà. Amoureuse jalousie.
Moi-même j'étais jaloux jadis. Je jouais tout ce que j'avais pas jusqu'à ce que maman dise: fils, patience, t'arrives.
Il arrive.
On la voit tous, on veut y arriver.
Et ton rêve.
Et pas le leur surveille, c'est n'avec qui te suivent. Jusqu'à ce que tu sois trop loin d'eux. Puis coule ton navire. Ainsi va la vie, vu qu'un nantique qui subit sort. Jette la faute sur celui qui s'en sort. Son unique but, jouer les justiciers. Ils veulent ce que t'as de valeur, le gueule. Pas toujours à leur imposte. Un manteau, un sac à main devient un testament. Rôde mort, d'homme lord et l'offre d'imposteur. Tous la même cause, la position de second possesseur. Beaucoup de fric dans le texte. Vu que ce que les gens t'envient est acquis grâce au fric, ce que je dis, je déteste. Mais mon temps est compté. J'ai pas le temps d'envier, car envier c'est du temps. Et le temps n'est qu'un tas de billets.
Depuis la nuit des temps, c'est tant de chance. Donne la mort d'ici à Kingston. Une cause,
amour et jalousie.
Ils veulent être qui je suis. Peut-être ce que j'ai, même mon insuccès, c'est médecin.
Amour et jalousie.
J'arrive pas à vivre, pourtant mon cerveau à niveau, ils veulent me priver de ma vie.
Amour et jalousie.
Noir et noir, moi ou toi, pourquoi toi, pas moi, pourquoi moi, pas toi, voilà.
Amour et jalousie.
Beaucoup de groupes de rap, rap, rock, reste rarement unis. Question de chiffres, inégaux, groupe U, groupie, les vis, loop. Vu que tout ce qui tourne touche au fric, putain. Rajoute 10 montants et dis si je mens. Hein? Premier prix de jalousie, ceux qui ont rien. Les chiens se bouffent, fichent la peau aux riches, les pièges à niche du voisin. Un peuple appauvris-tu, à coup de gris-gris, insidieux-tri. Prends les bons et laisse les maudits entre eux. Tout a l'air d'un complot, j'ai de moins en moins de potes, squat. Mon coin en moquant, faussement de milliers passés. Je lève mon verre à mes ex-amis, mes futurs ex-amis. Ceux qui ne seront jamais trop de fautes commises. J'aurais pu appeler ce rap bonheur ou malheur, rap pays. Mais je mélange et tout donne, amour et jalousie.
On dit jalousie, jalousie. Envie du voisin. On dit jalousie, jalousie. Envie du voisin. On dit jalousie, jalousie. Envie du voisin. On dit jalousie, jalousie. Envie du voisin.
Oxmo Puccino, amour et jalousie. Bien sûr, il y a du monde autour de nous. Des fois, on est distrait et c'est pas tolérable, comme dirait Damien. Et puis voilà, nous sommes avec nos amis de la bibliothèque qui sont là avec nous. Et puis, ouais, donc on se réadapte. C'est comme ça aussi la vie. Donc, nous sommes avec Yelviga, donc, qui va nous parler aussi de la bibliothèque. Et surtout, la bibliothèque, c'est là où il y a des livres et des livres, des tonnes de livres et des tas de livres qui nous viennent de partout. Elle veut nous faire parler d'un coup de cœur, donc d'un livre. Comment tu l'as appelé ça tout à l'heure?
C'est un roman graphique.
Un roman graphique, je ne savais pas que ça existait. Donc voilà, il y a des romans graphiques. Donc c'est quoi, c'est comment?
Donc un roman graphique, le premier roman graphique de Camille Royer, Mon premier rêve en japonais. Mm-hmm. Donc la différence avec une bande dessinée, elle n'est pas toujours facile à déterminer. Mm-hmm. Mais là, vous allez voir tout de suite, c'est un conte assez littéraire avec des belles illustrations. Voilà.
Et on peut le trouver à la bibliothèque
du Châtelet. Vous pouvez trouver à la bibliothèque du Châtelet. Vous pouvez l'emprunter si vous êtes rouennais, c'est gratuit. si vous venez de loin, vous pouvez vous asseoir et puis lire des bandes dessinées. Vous pouvez lire en une heure, deux heures, rester tout au long de l'ouverture de la bibliothèque. Donc, si vous voulez que je les rappelle, c'est mardi, mercredi, jeudi, de 13h30 à 18h. Et nous sommes ouverts également samedi de 10h à midi et 13h30 à 17h. Donc vous venez comme vous êtes à la bibliothèque du Château.
Eh bien voilà, elle nous a piqué notre slogan. Ça, c'est nous, ça, venez comme vous êtes. Mais on est content de voir que voilà, il y a des collègues qui s'inspirent de nous. Non, je rigole. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Donc, au début d'émission, je vous parlais de l'association LASTI, donc, qui organise un événement qui se passe samedi 14 décembre. Donc voilà, le samedi 14 décembre de 14h à 18h. Tous les... Oui, Edviga ?
Faut que je raconte jusqu'au bout.
Ah bah je t'écoute.
Parce que là, on est parti sur les romans, la différence entre les romans graphiques et une bande dessinée, mais quand même, de quoi ça parle?
De ça quoi ça parle? Si, ça nous intéresse.
C'est l'histoire d'une petite fille, Camille. Uh-huh. Donc, vous pouvez lire en famille. C'est un roman graphique adulte, mais pour nos jeunes, Sarah et Emma, vous pouvez la lire aussi. Uh-huh. Donc, Camille, c'est une petite fille bien agitée dans la journée, mais le soir, quand elle arrive à la maison, sa maman lui lit tous les soirs le conte en japonais parce qu'elle est d'origine japonaise. Mm-hmm. Et Camille, Elle voit plein de monstres. Ces monstres l'envahissent. Et c'est un roman graphique très sensible, raconté avec beaucoup de pudeur. Cette histoire, elle est très, très délicate, mélancolique et poétique. Et elle pose justement cette problématique d'intégration quand on a une histoire de notre mère, et on a notre propre histoire dans un pays qui est complètement différent culturellement de nos origines. Donc comment Camille se retrouve là-dedans, comment elle découvre ses origines, vous pouvez le découvrir dans les romans graphique de Camille Royer, Mon premier rêve en japonais.
D'accord, ok. Là, cette fois, c'est bon, je peux y aller.
Vas-y.
C'est super. Donc, je vous parlais de Lassie. Donc, voilà, ça se passe samedi 14 décembre de 14h à minuit et à la salle L'Astrolabe. Donc, voilà, c'est juste à côté de la mairie. Et puis, voilà, la chronique, on la diffusera demain. Et puis, je vais vous diffuser la chronique dans Syndicaliste Yvan, donc, qui était venu ici, reçu par M. Antoine Correa et Johan et M. Yvan de Petroplus à Lubrizol. Et c'est parti.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Mix des Cultures, la radio des Hauts-de-Rhône et dans toute son agglomération. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 novembre 2019 et justement nous avons un invité que j'ai suivi depuis pas mal de temps, depuis l'époque de Petroplus en 2009 jusqu'à maintenant. Et justement on l'a invité, c'est Yvan, il va se présenter et on est toujours en compagnie de Johan, bien sûr, qui fait partie de l'émission L'Esprit de l'Escalier. Voilà, donc on continue cette émission-là pour vous dire que ce qui s'est passé de 2009 à 2019, ça fait pas mal d'années, donc 10 années. Donc bonjour Yvan, bonjour, ça va ?
Oh, quand je suis debout, ça va.
Johan, ça va ?
Oui, ça va, Fino. Moi, je voulais souhaiter bonjour à notre ami Yvan, l'ancien porte-parole de Petroplus. L'ancien, je sais pas si ça se dit, peut-être, oui, maintenant.
Porte-parole, tu peux toujours dire porte-parole.
Hein, y a pas... Oui, enfin, c'est toujours porte-parole.
C'est un peu comme ministre, on le reste à vie.
Oui, à vie, ouais, voilà. Alors moi, je voulais savoir, parce que cette raffinerie-là, elle a été créée en 1929, et elle s'est éteinte aux alentours de 2013, c'est ça ?
C'est ça, en avril 2013.
Ah oui, en avril. Et, ouais.
Disons qu'en avril 2013, la plupart des salariés ont été licenciés.
Tout à fait.
Quelques-uns, comme moi, ont été licenciés dans les mois qui ont suivi, mais bon, c'était il y avait le gros paquet en avril, quoi. Alors, il y en a qui vont dire, dont les patrons de la société Valco, bah, ça a été dépollué, etc. Moi, je veux bien, on n'a pas la même définition de la dépollution. C'est-à-dire que pour dépolluer un site comme ça réellement, il faudrait creuser 8-9 mètres de profondeur de terre, brûler toute cette terre dans des fours tournants et remettre en place. Ouais. Là, actuellement, c'est pas dur. Si je me trompe pas, Valco a, sur certaines parties, démonté à peu près 50 cm. A remis de la terre, etc. Et ce qui fait que même ceux qui vont s'installer ne doivent pas creuser à un mètre. Sinon, bah, vous tombez encore sur des terrains pollués.
Alors moi, je voulais vous dire, moi je suis habitant de Petit Couronne, je pense que tu es au courant.
Bah, bien sûr.
Alors moi, j'ai vu le carnage qu'ils ont fait. Pour moi, ils n'ont pas creusé assez et il y a toujours... Il y a toujours du pétrole en dessous qui est, enfin, on va dire le mot planqué, parce que...
Bah, c'est-à-dire que quand vous mettez un bitume, vous faites un parking en disant bah, « je bitume, maintenant c'est juste des voitures qui se garent », mais le bitume ne cache pas la pollution qui est en dessous, ce n'est pas ça qui est une des pollutions.
Tout à fait, ça ressort.
Ah bah bien sûr, et surtout qu'il y a eu pour moi des produits qui ont été vidangés au sol, ce qui fait que bah, ça se retrouve dans la nappe phréatique.
Moi, qu'est-ce que tu en penses de ce site-là, alors ?
C'est pas un site industriel. C'est-à-dire, bon, maintenant, Valco a beau dire, c'est presque un espace vert, on va mettre des arbres, on va mettre des machins. C'est pas ce qui empêchera que c'est quand même pollué, même si nous, on entretenait le sol, hein, faut pas charrier. Mais c'est pas de l'emploi industriel. Il va y avoir des. Plus ou moins du. Comment ça s'appelle ? Des bases logistiques. Sur le site, maintenant, vous prenez l'exemple de Bolloré. Bolloré a récupéré 29 bacs, il a payé ça quelques millions, mais ça représente même pas le prix d'un bac.
Ils sont au-dessus du château d'eau.
Voilà. Et il y a 29 bacs, et avec ça, il fait de l'importation. Alors c'est sûr, on va dire, il y a une trentaine d'emplois sur le site, mais de l'importation, ça veut dire qu'on importe de Chine ou de Russie, etc., des produits finis, qui vont rentrer en concurrence avec les raffineries de la vallée de Seine. Bah, Exxon ou Total peuvent dire merci à Bolloré. parce que ça va supprimer de l'emploi chez Exxon ou chez Total.
Déjà sur le site Petroplus à l'époque, ça avait fait combien, 550, c'est ça?
Alors, on disait à chaque fois les 505, il y avait 550 postes à l'organigramme, donc il y avait un peu plus de salariés que ça. Et il y a tous ceux qui en vivaient, les entreprises extérieures, les commerces, etc. Donc nous on disait il y a au moins 3500, 4000, voire plus, emplois qui ont été menacés ou supprimés.
À l'époque on avait fait le tour de la commune, hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, Antoine.
Je me rappelle très bien, oui, bien sûr, oui, on avait fait le tour de la commune justement. Et voilà, c'est ce qui veut dire que voilà, ça a pris de l'évolution. Ce que je voulais poser comme question aussi, c'est qu'est-ce qu'elle est devenue cette usine concrètement?
Bah concrètement, c'est en train de prendre forme, entre guillemets. Ça va être des petites bases logistiques avec une centaine d'emplois là, ici ou là. Mais ce qu'il faut voir, c'est que à chaque fois qu'on dit, il y a maintenant ici jusqu'à 1500 emplois qui seraient créés sur le site, ce qui est complètement aberrant. Comme à l'époque, on nous disait, il y avait un journaliste qui m'avait dit, mais non, d'après eux...
Qui s'est passé chez
Lubrizol.
Lubrizol, non, c'est pas encore
fait,
ça.
Non, c'est pas tout à fait ça. Mais le truc, c'est que quand on prend Lubrizol, si tu veux aller vers Lubrizol.
Non, bref. Hein.
Voilà, non, mais moi, ce qui me sidère, moi, c'est pour ça que l'autre fois, j'ai fait un débat là-dessus. Je dis, moi, vous ne m'entendrez pas hurler avec les loups pour demander la fermeture de Lubrizol. Le seul qu'on n'entend pas, le seul qu'on n'accuse pas actuellement, c'est le gouvernement. Qui a décidé de supprimer les CHSCT, c'est-à-dire ceux les salariés qui s'occupaient de la sécurité, tous ces trucs-là ont été supprimés. Ouais. Et puis on a allégé les obligations, ce qui fait qu'il ne faut pas s'étonner d'avoir des problèmes de comme ça maintenant.
Alors c'est moins cher une boîte extérieure de faire venir du personnel sous-traitance comme ce qui s'est passé chez Lubrizol, parce que ça pour moi c'est sous-traité.
Les pompiers, mais ils ont même pas. Enfin, Lubrizol, ils ont un ou deux opérateurs pompiers. Mais des vraiment une caserne de pompiers comme nous on avait, non, ils en ont pas. Et Bolloré, etc. n'auront pas de pompiers. Eux, ils se basent sur les pompiers du ce qu'on appelle le SDIS, le comité départemental. Vous pouvez pas un feu d'hydrocarbures, si vous l'attaquez pas dans les 10 minutes, un quart d'heure, c'est fini. Vous allez à la catastrophe.
Alors moi, je voulais revenir sur l'ancien président.
Oui.
Alors il était venu et qu'est-ce qu'il vous avait promis?
On s'est toujours dit avec François Hollande, on s'est toujours dit ce qu'on pensait, que ça soit bien ou mal. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que la première fois qu'il est venu comme candidat, c'était, d'ailleurs tous les journalistes l'avaient noté, je reviendrai autant de fois que nécessaire pour sauver la raffinerie. Quand je lui avais dit après, on t'attend toujours.
Il est venu combien de fois alors? Autant de fois.
Il est jamais revenu.
Oui, il est venu qu'une fois. Pour moi, c'est pas autant de fois.
Une fois, on s'est recroisé à l'Elysée, on s'est croisé quand il est venu à Val-de-Reuil.
Oui, tout à fait.
Notre collègue Nicolas Vincent avait exigé, avec raison, qu'on se rencontre. Donc il avait trouvé un moment dans sa matinée pour nous rencontrer à la mairie de Val-de-Reuil ou du Vaudreuil, je sais jamais. Mais ça s'est arrêté là, quoi.
Est-ce que je voulais poser comme question, justement, qu'est-ce qu'ils sont devenus les employés de Petroplus?
Ah, il y a eu... Alors, les employés, t'as un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a une... moi, ce qui me... entre guillemets, qui me bouffe vraiment, c'est la perte de compétences qu'il y a eu. Parce que tous ces gens qui avaient une compétence énorme dans les travaux, tous les métiers du pétrole, on les a retrouvés dans des emplois, mais carrément à côté de la plaque.
Précaires, alors.
Précaires, pour beaucoup précaires, mais des trucs qui n'ont rien à voir avec leur formation.
Alors moi, je voulais revenir après, juste après la fermeture de la raffinerie en 2013. Mmh. Il y a une association qui est venue, ça s'appelait HOP.
HOP, ça veut dire espoir en anglais.
Oui,
alors ça avait été mis en place parce que, alors c'était, je vais pas être lourd sur le fait que le CE, forcément le comité d'entreprise, l'entreprise fermant, le CE ferme. Et donc il a fallu faire une dévolution, il y a le choix entre les biens du CE, argent et matériel, soit ça c'est donné à un CE d'une boîte équivalente ayant repris un certain nombre de salariés, etc. Ou vous créez une association et vous faites une dévolution, et cette association doit être à cercle fermé d'anciens de la raffinerie. Alors, raffinerie au sens large, comité d'entreprise, etc. Et donc en 2013, on a créé cette association-là, qui marche depuis 2013, qui n'a pas un rôle de comité d'entreprise, parce que bon, il n'y a plus de rentrée d'argent, on vit sur l'argent qu'il y avait à l'époque.
Oui, à l'époque du CE. Ouais,
je sais combien j'ai transféré, parce que j'étais le trésorier du CE, mais ça permet surtout aux ex-salariés de se revoir, d'organiser, ça peut être des loisirs, des séjours en vacances, une semaine de thalasso pour un groupe.
Piscine, enfin cinéma, voyage.
Voilà, cinéma.
Alors moi, je voulais vous dire, ce jour-ci, vous êtes toujours dans cette association ou pas ?
Je suis toujours dans l'association. J'étais au bureau de l'association, jusqu'à la dernière assemblée générale du mois de mars. Je ne vais pas dire qu'il y a eu un putsch, mais bon, c'est ce que je pense quand même. Mais on m'a écarté du bureau. Bon, alors j'ai peut-être un sale caractère, j'ai peut-être, avec l'âge, on a du mal à être patient.
Et voilà, vous venez d'entendre la voix de Yvan, donc, qui est l'ex-syndicaliste de Petroplus. Donc voilà, vous avez compris, ils ont survolé quasiment tous les petits sujets qui concernent la fermeture de Petroplus et aussi de la sécurité, de toutes ces choses qu'on en parle et qu'on ne comprend pas vraiment trop. Puis voilà, donc son regard de syndicaliste, ça nous a permis aussi de voir, de comprendre un peu que certains aspects du truc ne sont pas à négliger, donc voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc il est 17h57 et puis donc le temps file et puis les stagiaires et tout le monde est là, et à part vous dire au revoir et puis vous dire à demain. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez rajouter, monsieur ?
Juste, j'ai une question par rapport à Petroplus, c'est quoi ? J'ai pas compris, c'est quoi ?
C'est une usine de pétrochimie qui existait à Grand Couronne à une époque, mais qui a disparu. Okay. C'est bon, ça répond.
Ouais.
Mike.
Ouais.
Non, d'accord, ok, pas de nouvelles.
Non.
Alors, justement, qu'est-ce que tu voulais dire ?
Ah, moi, je voulais juste rajouter n'oubliez pas de rajouter des commentaires pour savoir si l'année d'Oussama Ben Laden avait le feu ou pas.
Ouais, pour ceux qui vont assister au spectacle, donc voilà, pourquoi pas, laissez-nous des commentaires et dites-nous comment elle était sur scène, parce que c'est vrai, on n'a pas vraiment vu d'image ou peut-être que j'ai cherché de la voir sur scène avec ses guitares et puis surtout toute la bande de filles autour d'elle. Donc pourquoi pas, laissez-nous des commentaires et envoyez-nous vos vidéos, vos Snapchat.
J'ai oublié de rajouter quelque chose.
Oui.
En fait, c'est un groupe 100% féminine. En gros, si vous voyez que des filles dans le concert, c'est normal.
Donc voilà, il est 17h50. Voilà, merci de nous avoir suivis. Juste une petite annonce pour les artistes qui nous suivent tous les vendredis. On reçoit des artistes. On a des jeunes artistes rouennais. Donc voilà, monsieur Grincheux, donc voilà, qui sort son album sur Kiss Kiss Bang Bang. Donc voilà, un morceau sympa, c'est lui. Donc j'ai croisé mon ex, et donc voilà, enfin plein de choses comme ça, vous pouvez trouver sur YouTube. Et puis voilà, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur Kiss Kiss Bang Bang pour lui donner un coup de main. Voilà, il sort son album, et puis voilà, il cherche aussi des financeurs. Pourquoi ne pas être le mécène, le faiseur de pape de monsieur Grincheux. Il est 18h58, et puis je vous dis ciao, ciao, et à demain. Ciao.
Thank you.